à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Ensemble, émission consacrée aux associations, vous êtes aujourd'hui présenté par votre serviteur Christophe Jubien. En seconde partie d'émission, nous évoquerons l'association Beta Machine en compagnie de l'un de ses responsables, Beta Machine, qui est un Fab Lab 100% chartrain. Mais tout d'abord, l'Université de la vie d'Alliance Vita qui nous est présentée par la déléguée départementale d'Alliance Vita, Elisabeth Rousseau. Alliance Vita lance sa 13e université de vie. Il s'agit donc d'une session de l'université de vie sur un thème particulier chaque année. Et cette année, c'est « Que faire du temps ? Défis bioéthiques et défis d'écologie humaine ». C'est presque un sujet de philo, ça, « Que faire du temps ?».
Non, c'est pas un sujet de philo parce que ça nous concerne tous. On est tous à courir après le temps et à se dire que tout va beaucoup trop vite ou toujours de plus en plus vite. Et donc, il y a bien un défi d'écologie humaine autour de ce thème. C'est pour ça qu'on a choisi ça.
Oui. Alors, c'est en lien avec la révision de la loi de bioéthique. Ça paraît pas évident comme ça, mais si.
Alors, oui et non. Hein. Alliance Vita essaie de s'extraire des contingences politiques du moment, mais il n'empêche que quand même, le thème du temps pose des questions quand même bioéthiques. Hein, sur les conservations, là, par exemple la congélation des embryons, hein, qui sont quand même des êtres vivants, qui sont des êtres vivants et qui sont congelés comme ça pendant on ne sait pas combien de temps. Bon. Il y a comme ça des tas de thèmes, enfin des tas de sujets bioéthiques qui ont rapport au temps. Et comme effectivement il va y avoir la révision des lois de bioéthique en 2018, eh bien ce thème est tout à fait approprié parce que dans les lois de bioéthique, il y a aussi tout le domaine du transhumanisme, des manipulations génétiques. Que faire aussi de toutes les données qu'on récolte sur nous, les big data, etc. Dans tout ce développement technologique, tout n'est pas à jeter non plus aux orties. Donc il faut savoir faire la part des choses. Ouais, ça fait partie aussi de cette formation.
Ouais, il faut vraiment une vraie réflexion autour de ces sujets qui engagent notre avenir, quoi, évidemment.
Voilà.
Ouais. Alors, redites-nous comment fonctionne cette université de la vie, parce que ça concerne 130 sites en France et maintenant à l'étranger. Hein.
Voilà, en Europe et à l'étranger aussi, voilà. L'université de la vie, c'est un cycle de formation bioéthique, hein, à la base, qui se déroule sur 4 soirées, 15 janvier, 22, 29 janvier et 5 février, de 20h30 à 22h30, en visioconférence, c'est-à-dire que chaque ville est reliée en visioconférence avec Paris, et les intervenants parisiens, on en profite en province. Et on a aussi un système interactif, c'est-à-dire que si on a envie de poser des questions, il y a des petits temps de répit pendant lesquels les personnes peuvent donner leurs questions aux organisateurs de la ville dans laquelle ils sont, les questions sont transmises, et du coup, les intervenants à Paris, en fin de séance, peuvent y répondre.
Ouais. Alors, les témoins et les experts sont multiples. Il y a des philosophes, des économistes, des médecins et des sociologues. Donc, c'est très étoffé.
Alors, c'est sous forme de petites interventions qui ne durent pas plus de 10 minutes, un quart d'heure chacune, et qui alternent à la fois des experts, des gens qui sont formés sur le sujet et qui ont quelque chose à apporter sur le sujet, et aussi des témoins. Cette année, on aura des personnes sur le plan des témoins. On aura, par exemple, Sophie et Damien Lutz, qui ont une jeune fille, une de leurs filles, qui est lourdement handicapée. On aura Philippe Ampozzo di Borgo, qui a inspiré le film Intouchable et qui est cette personne handicapée victime d'un accident de parapente. Donc voilà, ça, ce sont des témoins qui nous donneront leur témoignage autour de ce thème du temps. Mais on a aussi des experts hors Alliance Vita, comme François-Xavier Bellamy, Martin Stephens, qui sont philosophes, ou Pierre-Yves Gomez, qui est économiste, mais aussi des experts d'Alliance Vita eux-mêmes. Alors, que ce soit Valérie Boulanger qui s'occupe du site SOS Bébé, Henri Dessos, surtout les décodeurs bioéthiques qui nous permettent de resituer bien les choses, Duc de Alderville bien sûr, Caroline Roux qui est plus à l'international, et voilà. Donc on aura à la fois des experts d'Alliance Vita, des experts philosophes, économistes, voilà, et puis des témoins.
Oui. François-Xavier Bellamy, que vous avez cité, et qui commence à être très très connu maintenant, qu'on commence à voir sur les plateaux de télévision parfois.
Un petit peu. Il a écrit un livre quand même assez important, Les Déshérités, hein, sur le thème de la culture. Il a agrégé de philosophie. Ouais. Et puis, il est dans la vie, puisqu'il est quand même élu local, oui, sans étiquette. On ne pourrait pas faire venir quelqu'un qui a une étiquette politique, mais lui est sans étiquette. Donc, il a quelque chose à dire sur la vie de nos contemporains.
Donc, on pourra comme ça converser avec les invités.
On pourra pas converser, on pourra poser nos questions.
Poser nos questions.
Et à la fin de chaque séance, à la fin de chaque soirée, les témoins et les experts sont rassemblés en une sorte de table ronde et les questions qui arrivent des diverses villes leur sont posées.
Ouais. Alors à Chartres, il y aura une université de la vie. Comment voilà. ça va se passer où?
Oui. Donc l'université de la vie à Chartres sera à la Visitation. Aux dates que j'ai données tout à l'heure, hein, 15, 22, 29 janvier et 5 février 2018. Pour s'inscrire, il suffit d'aller sur le site www.universitedelavie.fr et de choisir la ville dans laquelle on veut participer à l'Université de la Vie. Ouais. Et voilà.
Alors, je vous pose la question, que faire du temps? Quels thèmes seront débattus au cours de cette université de la vie?
Alors, on aura quand même un constat, on a à vivre aussi dans notre temps actuel, quoi. On n'a pas à vivre dans le passé ou à se projeter dans l'avenir en évitant de vivre dans notre temps. Donc on commencera quand même par ça, que chacun se situe dans son temps. Et puis on aura un thème sur le fait d'être présent, c'est-à-dire dans la rencontre avec les plus fragiles, par exemple, d'être vraiment présent à la personne en face de laquelle on est, vivre vraiment ce temps-là avec la personne. Ensuite, dans ce monde qui va très vite, on aura un thème autour de se donner le temps de réfléchir, se donner le temps de se former, de ce dont on parlait au début, hein, se donner le temps de réfléchir à tous ces enjeux bioéthiques. Et puis, face à ce défi du développement de la technique, eh bien, savoir discerner entre ce qui est bon dans la technique, savoir progresser, utiliser, hein, l'homme réparé, c'est bon. Et en revanche, savoir aussi conserver ce qui est pour que l'homme reste au cœur de tout ça, quoi, des risques du transhumanisme.
Il y a des craintes particulières chez Alliance Vita, on sait que vous travaillez beaucoup sur ces sujets, des craintes particulières parce qu'on voit que le transhumanisme, la réalité augmentée, etc., progresse à une vitesse considérable aujourd'hui. Quels sont les risques?
Alors, il y a les risques avec les nouvelles technologies, les nouvelles découvertes de séquençage du génome qui peuvent créer des bébés OGM, en fait, hein, c'est-à-dire génétiquement transformés, modifiés. Il y a le risque de... Il y a un certain mépris, on sent quand même chez les experts du transhumanisme, chez les personnes qui se réclament du transhumanisme, l'attitude de se dire que ceux qui ne voudront pas suivre, bah, tant pis pour eux, quoi. Oui. Alors qu'en fait, nous, ce qui nous importe vraiment chez Alliance Vita, c'est que chacun doit être acteur de son avenir. Oui. Hein. Alors évidemment, on a besoin des experts, on a besoin des techniciens, etc. Bon, voilà. Mais on ne peut pas faire sans la personne, hein, sans nous. Et donc, dans l'enjeu des états généraux de la bioéthique, il y a aussi le fait que les citoyens puissent dire ce qu'ils veulent, jusqu'où ils souhaitent aller, qu'on pose des limites aussi. Voilà, ça c'est notre inquiétude.
Et qu'on ne subisse pas finalement des choses qu'on n'aurait pas forcément voulu, alors que ça engage évidemment l'avenir de l'humanité et la nature humaine même. Hein,
voilà, oui. Voilà, tout à fait, c'est ça.
Je rappelle donc que cette université de la vie sur le thème de « Que faire du temps ?» se déroulera les 15, 22, 29 janvier et le 5 février 2018. Pour nous, pour Chartres, c'est au 22-26 avenue d'Aligre à la Visitation. Et vous pouvez vous inscrire sur www.universitedelavie.fr. Elisabeth Rousselon, un grand merci à vous.
Merci à vous. Impeccably.
dance all night like I'm so bored. But you know I'd rather drag myself across the dance floor. I feel like dancing on my own, where no one knows me and where I can cause offense just by the way I look. Just hope that you are on my side, my dear. But it's best to finish as it started, with my face head down, just staring at the ground for my cup. It's safer not to look around. I can't hide my feelings from you now. There's too much love to go around.
Après cette chouette petite chanson signée Belle et Sébastien, groupe britannique de pop fort sympathique, je vous propose de faire un petit retour en arrière. Nous étions au mois d'octobre à Chartres Expo au Salon des Artisanales, le deuxième plus grand salon de l'artisanat français. Tout de même, il faut le préciser, j'ai fait la connaissance de Pascal, le créateur de l'association Beta Machine, un Fab Lab comme on dit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un Fab Lab? Vous le savez peut-être, moi je l'ignorais avant de rencontrer Pascal.
Alors oui, alors je ne l'ai pas fondé tout seul, c'est un travail d'équipe, on était 7 fondateurs à l'origine et l'idée était pour nous de créer un lieu de rencontre et de partage de la connaissance tout en proposant des ateliers techniques, de mécanique, de menuiserie, d'électronique ou de design avec de l'impression 3D à Chartres et pour tous les citoyens.
Ouais. C'est un partage de savoir et de savoir-faire ?
Absolument, en fait on n'est pas que sur des savoirs scientifiques ou purement technique ou industriel, on est aussi sur des savoir-faire qui se rapprochent de l'artisanat, comme on a des ateliers de vannerie, de couture et de tricot même, qui font se rencontrer tous les gens qui veulent faire du tricot, se retrouvent ensemble au lab. Et on est d'ailleurs partenaire et même logé par la Chambre des métiers et de l'artisanat qui nous héberge maintenant depuis plus d'un an, qui nous font bénéficier en fait d'un lieu de près de 600 mètres carrés dans lequel on peut s'ébattre joyeusement.
Alors vous quand même, personnellement, vous venez du numérique, hein ?
Oui, alors.
Racontez-nous votre parcours en quelques mots.
Alors, moi j'ai travaillé longtemps en fait dans des web agencies dans le monde des médias internet, plutôt du côté technique. Et puis ensuite, j'ai créé une petite société qui fait du logiciel pour le monde de la culture. Et donc, Beta Machine dans tout ça, c'est une envie de citoyen en fait de contribuer sur le territoire à faire émerger un espace qui va permettre à n'importe qui de créer n'importe quoi.
Pour vous resituer quand même, c'est vous qui avez créé des applications 3D pour le service d'archéologie de Chartres.
Oui, alors absolument. On a travaillé, alors c'était en 2012 ou 2013, on a travaillé, oui, comme le temps passe, on a travaillé effectivement avec les services d'archéologie de la ville de Chartres, dans un premier temps sur le site de Saint-Martin-au-Val, pour réaliser en réalité augmentée et en réalité virtuelle une visualisation en fait du temple gallo-romain qui existait au début de notre ère en fait, et donc le rendre visible comme si on y était sur le site même des vestiges. Et puis on a fait quelque chose d'équivalent en fait avec une restitution sur plusieurs époques pour la porte Guillaume, puisqu'il y avait déjà une implantation gallo-romaine sur ce site là et on a donné une restitution également au Moyen-Âge et un peu plus récente pour montrer en fait l'évolution archéologique du site de la porte Guillaume.
Avant de reparler de Beta Machine, ces applications sont toujours là, c'est-à-dire qu'on peut toujours aller quand on va à Porte-Guillaume et bénéficier de cette réalité augmentée, comme on dit.
Oui, absolument, oui, elles sont toujours téléchargées. En fait, elles sont trouvables sur les stores Apple notamment, et il suffit de les télécharger pour pouvoir y avoir accès. Elles sont toujours gratuites et visiblement, beaucoup de touristes les téléchargent dernièrement.
Bon, revenons à Beta Machine. Là, il y a plein de choses, genre extrêmement différentes. Il y a des espèces de machines infernales. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Vous allez peut-être nous le dire.
Alors, ça, c'est une imprimante 3D qui a été fabriquée par un des membres de l'association sur des plans qu'on appelle open source, donc disponible librement sur Internet, et qu'il a recréé en suivant ses plans, en sourçant, donc en trouvant toutes les pièces et les moteurs, etc., pour pouvoir faire une imprimante 3D. Donc, une imprimante 3D, c'est un engin qui va permettre d'extruder en fait du plastique, du filament de plastique, et de le déposer en fait par couche pour fabriquer un objet. Un objet que vous avez dessiné préalablement en fait en trois dimensions sur un ordinateur. Il y a des logiciels pour ça. Et ensuite vous pilotez cette machine avec un ordinateur pour pouvoir justement imprimer une pièce. Donc, ça peut prendre un peu de temps parce que c'est un dépôt de matière de plastique qui est chauffé et ça peut prendre selon les pièces de 2 heures à 2 jours en fait pour imprimer une pièce.
Il y a plein d'inventeurs chez vous alors.
Alors,
vous offrez la possibilité à des gens peut-être, de monter des choses.
C'est exactement ça. En fait, on trouve parmi les membres en fait des gens qui viennent de tout horizon, mais il y a un point commun à tous. C'est avant tout la curiosité, l'envie d'apprendre, ce que je mets un peu dans le même sac. Puis après, un certain nombre ont des projets personnels de création. Certains vont vouloir juste apprendre en fait une technique, apprendre à utiliser des machines pour réaliser des choses du quotidien, mais d'autres vont rentrer de plus dans des démarches artistiques ou artisanales ou créatives en fait pour s'exprimer pleinement, mais en utilisant des techniques qui sont aujourd'hui à disposition de tous, mais qui sont numériques ou peut-être même qui artisanales, hein, puisqu'on peut faire de la menuiserie, de la vannerie, donc c'est pas du tout fermé. Et ça, cet aspect pluridisciplinaire est quelque chose de très très important pour nous, parce qu'on pense vraiment qu'on est dans une époque qui ressemble un peu à la Renaissance en fait, à une époque où les disciplines s'interpénètrent pour créer quelque chose de nouveau. On ne sait pas encore ce que c'est, mais on essaie d'y contribuer. Voilà, en tout cas, on essaie de permettre cette rencontre et ce partage.
C'est une époque plutôt excitante finalement pour vous, pour les créateurs.
Toutes les époques sont extrêmement excitantes, mais aujourd'hui, on a une chance folle de pouvoir avoir à disposition assez facilement, notamment au travers d'Internet, énormément de ressources, énormément d'informations, de ressources techniques pour apprendre par soi-même. Et de ce fait, en fait, celui qui a envie peut vraiment aller très très loin techniquement, et quand il trouve des lieux comme des labs comme le nôtre, des hackerspace ou des fab labs pour encore avoir des ressources techniques et encore plus importantes qui sont très proches de ressources industrielles ou artisanales, on a toute liberté pour vraiment créer presque sans limite.
C'est quoi la différence entre un lab, un fab lab et un hackerspace ?
Bon alors, disons que pour nous, on appelle un lab un endroit où on va avoir des ateliers techniques de menuiserie, de mécanique, d'électronique, des imprimantes 3D, des découpeuses laser, etc. Tout ça, c'est un lab, nous, en général. Mais après, il y a des fab labs. les Fab Labs, en fait, c'est historiquement, en fait, un Fab Lab est sous le label, en fait, du MIT, Massachusetts Institute of Technology, donc il y a un grand institut de technologie aux États-Unis qui a en gros créé une charte, la charte des Fab Labs, et qui dit, bah voilà, un Fab Lab, c'est un certain nombre de machines. Pour débuter un Fab Lab, il faut avoir un certain nombre de machines, les mettre à disposition, etc., avec quelques règles de fonctionnement, etc. Nous, on est un hackerspace, donc on est aussi un lab, mais pas un Fab Lab. On a choisi d'être plus libre, de ne pas avoir de charte, d'être dans une logique de développement plus libre pour nous, parce qu'on n'avait pas forcément les moyens de s'acheter toutes les machines qu'exigeait, en fait, la charte Fab Lab, et on voulait aller plutôt à notre rythme et dans un ordre qui nous convenait mieux, et de ne pas être contraint par une charte. Donc on en a tout l'esprit, on est dans une vraie logique de partage et d'ouverture au plus large public possible. Hein.
Donc on peut être en France à partir de quel âge à quel âge, on va dire ?
On peut venir de 7 à 70 ans, 77 ans et plus, en fait. On accueille tous les jeunes.
D'accord. Comment on fait ? En fait, il faut donc adhérer, j'imagine, et après on a accès aux appareils, aux ordinateurs, enfin, comment ça se passe ?
Le fonctionnement est très simple, en fait. On a une adhésion annuelle qui est de l'ordre de 30 €, qui permet d'accéder au lab, de devenir membre et d'accéder au lab tous les mercredis soirs, plus un certain nombre d'ateliers découvertes. Et puis ensuite, pour les membres qui veulent vraiment s'investir et aller plus loin, et, ou pour des besoins propres, ou parce qu'ils ont vraiment envie de participer et de s'investir dans le lab, eh bien, on a une logique plus participative où on demande une participation de l'ordre de 15 € par mois. Enfin, en gros, c'est avec 180.
Très raisonnable.
Avec 180 € à l'année, en fait, vous avez un accès total au lab, à tous les espaces, à toutes les machines, à toutes les formations sur les machines, et puis à tous les ateliers, naturellement, découvertes ou pas, avancées. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne s'agit pas d'acheter une prestation, cet argent correspond à une participation à la vie du lab. Donc, ça permet de payer les charges, payer les ressources. Toute la connaissance est libre et gratuite, puisqu'elle est fournie par la communauté des membres, donc par des bénévoles. Mais par contre, on a forcément besoin de payer donc bientôt un loyer, parce que jusqu'à maintenant, la Chambre des métiers nous mettait à disposition le lieu, mais on souhaite effectivement participer aussi au coût que représente ce lieu pour eux. Et puis, on a, nous, des charges propres, d'électricité, de l'eau, les matériaux aussi qu'on doit acheter. Donc tout ça, en fait, il y a des modes participatifs qui sont mis en place. D'ailleurs, en fait, un exemple, donc là on parlait de la participation pour l'accès complet au lab, mais après, si vous voulez utiliser des matériaux qui sont mis à disposition au lab, c'est possible aussi. Mais on a un petit écureuil qui est là à différents endroits. Par exemple, si vous voulez utiliser des filaments pour l'imprimante 3D, en fait, le logiciel va vous dire exactement, en fait, quel poids ou quelle longueur de fil vous allez utiliser. Et vous avez, là aussi, c'est à votre responsabilité de mettre les sous qui vont bien dans le petit écureuil qui est notre petite tirelire pour participer au rachat de nouveaux filaments, etc. Donc on est vraiment dans une démarche de confiance et de participation. C'est-à-dire que si demain tout le monde consomme du fil sans participer, il n'y aura plus de fil. C'est aussi simple que ça. On a la même chose pour... on a un petit bar avec des boissons fraîches, de l'eau, du café, etc. Vous pouvez en consommer comme vous l'utilisez, comme vous voulez. Simplement, il y a aussi un petit écureuil qui est là pour ça, pour récolter votre participation. On sait qu'un café, c'est autour de 15 centimes pour le coup. Si vous mettez 20 centimes, c'est bien, on peut en racheter. Ça permet de payer aussi l'essence, etc., etc., etc. Donc voilà, on est là aussi, en fait, dans une logique participative et responsabilisante, en fait. C'est un truc qui est vraiment important pour nous, de ne pas être dans une logique de consommation pure.
Merci beaucoup. Comment on fait pour... est-ce que c'est tout niveau ? C'est-à-dire que si moi je suis ignare en informatique, je viens, j'ai envie d'apprendre des choses, c'est possible même, même si je suis nul.
Voilà, absolument. Et même, j'irais même surtout, l'important c'est de s'armer de son envie et sa curiosité à apprendre. Moi-même, je suis complètement nul en vannerie, ça m'intéresse, j'ai la possibilité de venir au lab pour l'apprendre. Par contre, moi, je suis plutôt assez bon en informatique. Je vais pouvoir partager, animateur, je vais pouvoir partager mon savoir avec les autres sur l'informatique et aider certains à développer leurs projets sur le sujet qui les intéresse. Donc c'est vraiment la logique, on est dans une logique vraiment participative et on vient avec le niveau qu'on a. L'important, c'est de vouloir participer et d'apprendre.
un numéro de téléphone peut-être ou un mail.
Alors, il y a tout sur le site internet, donc c'est peut-être le plus simple. Le site internet, c'est www.betamachine.fr. Beta, B-E-T-A, machine, comme ça se prononce, .fr.
Voilà. Et voilà, encore une merveilleuse initiative. Les gens de bonne volonté ne manquent pas à Chartres comme ailleurs. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente fin de journée à l'écoute de vos programmes. On se retrouve dans à peu près un mois pour une nouvelle édition de l'émission Ensemble, édition Chartraine, bien sûr. À bientôt. We'll be right back.